C'est assez fondamental de l'expliquer. Qu'est-ce qu'un internement administratif? En fait, c'est des décisions de privation de liberté, donc des gens qui se retrouvaient enfermés, souvent dans des établissements d'ailleurs pénitentiaires, donc vraiment à caractère carcéral, en prison, hein, pour le dire les choses honnêtement, et puis qui se retrouvaient là sans décision de justice, donc sans qu'il y ait eu un quelconque tribunal, voire même la violation du code pénal ou qu'il y ait eu des crimes. C'était souvent en fait des motifs moraux ou économiques, et on essayait de prévenir des risques pour la société, et on pouvait enfermer les gens de cette manière-là par des procédures administratives qui dépendaient parfois d'autorités locales, parfois de fonctionnaires, parfois de commissions de santé ou des modèles de ce type-là. Donc ça diffère vraiment de ce qu'on a l'habitude avec le modèle judiciaire où il y a un certain nombre de garanties qui sont données aux justiciables, et là c'était pas le cas.
On a l'impression que ce pan sombre de l'histoire suisse n'a rien à envier en fait au pan d'histoire de régime autoritaire.
Alors c'est quelque chose qui est assez interpellant, c'est que dans un état démocratique de droit, on a quand même considéré qu'il y avait des citoyens de seconde zone qui ne méritaient pas les mêmes droits que les autres et qui pouvaient se retrouver enfermés, en diminuant leurs droits pour différentes raisons. Et effectivement, il y a des modèles qui viennent plutôt du 19e siècle, qui sont la police des pauvres, l'idée qu'on devait intervenir sur les gens en situation de précarité, et que c'est dans la conception même qu'on avait de cette pauvreté, ce qui était fondamental, c'était de considérer que les pauvres étaient responsables de leurs fautes et que c'était un vice, que c'était vraiment une faute originelle du pauvre. Et puis après, il y a des modèles qui ont évolué au XXe siècle, avec notamment l'arrivée aussi des sciences, mais qui parfois ont renforcé ces modèles coercitifs. Notamment, on a dès les années 30 une lutte contre l'alcoolisme dans un canton comme le canton de Vaud, avec une légitimation médicale, mais où on surveille les gens, on les enferme de manière souvent assez brutale, pour en fait là d'autres motifs qui est des questions d'hygiène publique, parfois aussi des questions d'eugénisme, cette idée qu'on allait améliorer l'espèce humaine, qui était une idée scientifique très répandue, qui a connu son paroxysme dans les systèmes totalitaires, comme le nazisme bien sûr, mais qui en fait a été pratiquée aussi dans des systèmes plus libéraux et démocratiques.
Est-ce qu'on peut parler d'une solution de facilité pour les pouvoirs en place qui, faute d'un système social adéquat, d'institutions adéquates, de couverture sociale, décident d'enfermer les gens pour plus devoir s'en occuper?
Pour dire les choses rapidement, on pourrait parler effectivement d'une forme de facilité dans l'idée qu'à un moment donné, les autorités ont considéré qu'il fallait des outils vraiment efficaces, rapides, sans entraves juridiques, administratives, pour intervenir sur ce qui était pour eux des vrais problèmes sociaux, ce qui était considéré en tant que tel. Et donc, à un moment donné, on a décidé de s'affranchir de certaines règles pour intervenir, avec des résistances d'ailleurs dès le départ de la part de certains juristes, de certains politiques qui estimaient qu'on allait beaucoup trop loin puis qu'on était en train de braver des principes fondamentaux de l'état de droit. Et effectivement, ces mesures répressives répondent aussi, on le voit, à un manque parfois de structures sociales. On le voit par exemple avec des personnes âgées dans certains cantons qui se retrouvent, des personnes âgées seules ou précarisées, qui se retrouvent enfermées dans des pénitenciers parce qu'on n'a pas de structure du type EMS qu'on connaîtrait aujourd'hui où on pourrait placer ces gens. On voit aussi ça avec les placements psychiatriques où il y a des gens qui se retrouvent en asile parce qu'on ne sait pas quoi en faire dans la société et on les place là sans qu'il y ait une vraie réflexion d'ordre thérapeutique ou de réinsertion qui soit menée.
Parmi les victimes, les femmes aussi, les femmes seules notamment, payent le prix fort de ces internements.
Oui, alors j'évoquais des motifs moraux, donc de manière générale, c'était des individus qui s'écartaient des normes pour des raisons ou des autres, qui étaient considérés comme s'écartant des normes, plutôt je devrais dire, et qui donc pouvaient être réprimés en tant que tels. Donc on a des travailleurs, on estime qu'ils ont un travail qui n'est pas assez régulier, on a des personnes, c'est ces figures du vagabond, donc des personnes qui se déplacent géographiquement puis qu'on essaye de stabiliser, et on a aussi effectivement des femmes qui parfois fréquentent des hommes sans être mariés ou qui ont des enfants hors mariage et qui pouvaient subir l'internement pour des motifs là vraiment moraux puisqu'elles ne s'inscrivaient pas dans le schéma classique de la famille établie dans un modèle qui était le modèle bourgeois au XXe siècle.
On parle beaucoup des enfants placés, problème connexe, mais qui ne recoupe pas la réalité de ces internements administratifs.
Alors ça, c'est un point qui est important de relever, c'est que d'une part, il y a eu cette question des enfants placés qui a été thématisée d'ailleurs un peu plus tôt que la question des adultes. Nous, on a beaucoup travaillé sur les mesures d'internement d'adultes, donc vraiment de personnes majeures qui jouissaient du discernement, qu'on plaçait dans le cadre de procédures cantonales. Et ça pose une question là qui est assez fondamentale, c'est celle des procédures, de comment on a réussi à enfermer ces gens, à les interner, alors que c'était des gens qui étaient prétendus jouir de leurs droits civiques. Et donc c'est assez important de le relever, la question des mineurs a été beaucoup débattue, et d'ailleurs il y a des liens entre les deux, puisqu'il arrivait que des mineurs placés soient internés en étant adultes, ou qu'on place des adultes et qu'on place leurs enfants en parallèle, donc il y a des liens entre les deux. Ça touche aussi au-delà de l'internement, aux questions d'alternatives à l'internement, et on sait que la stérilisation forcée dans certains cas, la surveillance dans la société dans d'autres cas, étaient des alternatives à l'internement. Donc au-delà des 60 000 internés qu'on évoque à peu près dans les chiffrages qu'on a réussi à élaborer, eh ben, il y a encore tous ces gens derrière qui ont été touchés par les mesures indirectement. Et donc, c'est vraiment un phénomène de masse qui est assez conséquent.
Les pratiques d'internement varient selon les cantons, avec plus ou moins d'opacité et sans surveillance.
Oui, alors ça, c'est vraiment un point qu'on a réussi à démontrer, c'est que c'est des procédures cantonales. Donc, chaque canton faisait un peu sa cuisine et puis élaborait des procédures avec des grandes différences dans les pratiques en fonction du fait qu'il y ait un pouvoir centralisé ou pas, qui est aussi parfois, on l'a vu, il y a des critères qui sont assez déterminants. Le fait d'avoir un hôpital universitaire, par exemple, fait qu'il y a un discours qui légitime d'un point de vue médical, alors que dans certains cantons, ce n'est pas le cas. Il y a une autonomie des autorités locales qui fait qu'elles ont plus ou moins de largesse d'intervenir ou pas. Donc, c'est un phénomène qui est très protéiforme, l'internement administratif, qui prend différentes formes et puis qui est très divers. Et même pour nous qui avons travaillé plusieurs années dessus, c'est difficile parfois de traverser cette opacité et de comprendre le système dans son ensemble. Donc, il faut s'imaginer que pour les individus qui, à l'époque, subissaient ces mesures, et c'est encore plus compliqué de se défendre et de comprendre ce qui se passait, puisque c'est un système qui est vraiment... c'est une sorte de nébuleuse, c'est assez obscur comme ça, c'est opaque.
Donc, grande insécurité pour les victimes, dont on a parlé tout à l'heure, parce qu'impossible de vraiment cerner les raisons qui font qu'on est enfermé un jour. Et surtout, peu de moyens de recours.
Oui, ça c'est vraiment une des caractéristiques de ces internements, c'est que souvent les possibilités pour les individus frappés d'une telle mesure de se défendre étaient diminuées par rapport à une procédure civile ou judiciaire qu'on pourrait faire en analogie au niveau de la justice. Et souvent les gens n'étaient pas informés, n'avaient pas accès à leur dossier, ne savaient pas qui les avait dénoncés dans quel cadre, et parfois il n'y avait même pas de procédure de recours. Donc on est vraiment dans des cas de figure, et quand on parle d'internement, c'est parfois des internements qui s'échelonnent sur plusieurs années. Il y a même des internements à durée indéterminée pour les cas notamment thérapeutiques de ceux qu'on estimait incurables et qu'on enfermait jusqu'à ce qu'ils soient guéris. Et donc c'est des procédures qui sont quand même très fortes et qui atteignent foncièrement aussi l'individu sur sa liberté personnelle, mais qui en fait de l'autre côté juridiquement garantissaient pas ce qu'on attend aujourd'hui, ce qui sont aujourd'hui les critères, les exigences en termes de garantie de la liberté individuelle.
Cette recherche historique en tout cas elle nous montre que l'apparition des tribunaux administratifs est fondamentale pour la protection des citoyens vis-à-vis de l'État.
Oui, c'est un point qui pour moi était aussi une vraie découverte, c'est de réaliser à quel point un tribunal administratif est une composante fondamentale d'un état de droit pour protéger l'administré, le citoyen, face aux mesures de l'État. Et en fait, aujourd'hui, on a des fois une conception des tribunaux administratifs qui peut être très technocratique, procédurale, on ne comprend pas toujours à très bien à quoi ça sert, mais en fait, c'est une pièce fondamentale, parce qu'à l'époque, le citoyen qui se défend face à une décision de l'État, il est dans une relation d'asymétrie telle qu'en fait, c'est souvent la raison d'État qui prévaut. Et aujourd'hui, en fait, ces procédures, cette technocratie, le fait qu'il y ait un certain nombre de choses qui soient aujourd'hui judiciarisées, ben, sous le regard de ce qu'on peut voir au niveau historique, on voit aussi que c'est quand même un renforcement aussi de l'état de droit, puis c'est aussi une forme de progrès pour les droits individuels. Et aujourd'hui, on a la capacité quand même de se défendre. Alors, je pense qu'il y a toujours des zones d'ombre, et puis globalement, on ne peut pas dire que notre société est non plus parfaite et que notre état de droit est abouti. Mais on peut voir aussi ces structures-là comme en fait des garants aussi de ce qu'est la liberté de l'individu face à l'État et de l'équilibre entre les deux, entre la raison collective et la raison individuelle.